Alors, bonjour. Je vais commencer par m'excuser parce que je prends un petit peu le topo au pied levé. Donc, il y aura sans doute quelques imprécisions ou quelques éléments qui passeront plus rapidement. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, le projet Escapade. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de ce projet-là dans cette enceinte? Donc c'est un projet de recherche et de recherche appliquée qu'on va vous décrire un peu plus en détail. On a tenu à vous le présenter parce que c'est un projet d'ampleur qui associe de nombreux organismes. Donc je ne vais pas tous les énumérer, mais vous voyez la myriade de petits logos en bas à droite de la diapo de titre. Et qui a pour objectif de s'attaquer de façon, on va dire, multipartenarial au nouveau Far West de l'agronomie, à savoir la gestion territoriale des flux d'azote pour arriver à vraiment je vais dire une approche de gestion à cette échelle qui manque de plus en plus dans nos schémas de réflexion et d'action sur le terrain. Alors, bon, le contexte, c'est typiquement le type de diapo où je vais passer assez vite. Le contexte, bon, vous le connaissez tous, hein, on a au niveau mondial et au niveau des pays et au niveau des sous-régions dans les pays, une intensification des flux d'azote dans les agro-systèmes, liée à la fois à l'augmentation de la consommation des engrais pour répondre aux enjeux d'alimentation, que ce soit humaine ou animale, avec un certain nombre donc de conséquences heureuses, bien entendu, et aussi un certain nombre d'effets collatéraux liés à des transferts d'azote actifs dans l'environnement, avec plusieurs effets directs ou indirects sur les écosystèmes. Donc c'est dans ce contexte-là que la gestion de l'azote, on va dire, évolue depuis de nombreuses années. La question se pose de à quelle échelle on traite les différentes problématiques pour être efficace. Alors, je fais apparaître toutes les petites animations, comme ça je suis sûr qu'elles sont toutes là. Quand on s'intéresse aux flux d'azote dans le territoire, eh ben, très clairement, bon, la diapo le montre, je ne vais pas vous la détailler en ultra détail, on se heurte tout de suite à une complexité des flux. Alors, une complexité des flux liée aux différents compartiments qui existent sur le territoire. Donc, des compartiments qui dépendent, bien entendu, de l'homme, à savoir bon, le système d'exploitation, la façon dont on gère ce système d'exploitation, qu'il soit en culture ou en élevage, bien entendu. Mais, bien entendu, ce qui dépend de l'homme est en interaction avec des compartiments environnementaux. Donc, l'atmosphère qui nous préoccupe de plus en plus, évidemment le sol et les caractéristiques qui peuvent être influencées par les actions anthropiques, et le compartiment hydrique, que l'on soit au niveau des rivières ou qu'on soit au niveau des milieux marins, à l'échelle du bassin versant. Donc, face à toutes ces unités qui existent sur un territoire, eh ben, les flux sont multiples et vont un petit peu dans tous les sens. Donc, que ce soit des flux gazeux, que vous pouvez voir avec les petits sigles des composés azotés gazeux, qu'ils soient ammoniac, protoxyde d'azote ou même diazote, des éléments dissous dans l'eau, bon, le fameux nitrate bien entendu, et d'autres particules organiques qui peuvent être dissoutes dans l'eau, bien entendu, des boucles d'échange de ces éléments à l'intérieur de tous les compartiments, que ce soit par les sites de l'azote organique, que vous voyez avec les petites flèches qui tournent, mais aussi avec tous les processus de transformation de la matière de l'azote organique vers l'azote minéral. Donc une complexité qui laisse évidemment perplexe et qui a bien entendu assez logiquement mené jusqu'à une époque très récente à des études qui s'intéressaient à des tout petits compartiments, que ce soit la parcelle, que ce soit l'interaction parcelle système d'élevage, mais qui a très rarement réussi à augmenter la focale et donc prendre un petit peu d'altitude. Pas parce que les gens qui s'en occupaient n'avaient pas conscience que l'approche globale était intéressante, c'est qu'il y avait un obstacle méthodologique, tout simplement, lié à la complexité. On va y arriver. Néanmoins, les collègues qui ont travaillé là-dessus sur de nombreuses années ont essayé de formaliser un petit peu tous ces échanges-là, et on est arrivé assez vite, avec différents degrés de ramification et de finesse, à des représentations de ces échanges sous la forme d'un cycle, entre parenthèses bouclé, de l'azote, j'y reviendrai. Bon, qui a donné lieu à de multiples représentations. On vous en donne deux là, une sur la gauche qui est plus écologique au sens population microbienne et compartiments environnementaux, celle plus à droite qui est un peu plus mécaniste et qui s'intéresse à un processus, parce qu'on peut faire des sous-cycles de l'azote, bien entendu. La réflexion initiale à au projet a pris quand on s'est aperçu que ce type de représentation des échanges, des différentes formes d'azote dans les systèmes qui nous intéressent, pouvait apporter un certain nombre d'obstacles à la réflexion. D'où le passage au concept qui commence à discuter depuis quand même 4-5 ans dans nos instances agronomiques, à savoir la cascade de l'azote. Alors là aussi, je vais faire apparaître toutes les petites animations. Je crois que je les ai toutes. Voilà. En résumé, le principe de la cascade de l'azote, bien entendu, les processus, on ne les réinvente pas, mais c'est une représentation des échanges d'azote réactifs, au sens qu'ils peuvent avoir une influence sur des processus physiques, physico-chimiques ou biologiques dans les différents compartiments. Donc ces échanges-là ne sont pas représentés sous la forme d'un cycle, mais sont représentés sous forme de transfert entre différents compartiments qui s'enchaînent d'un point de vue graphique, d'un point de vue descendant, voilà, d'où le terme d'ailleurs cascade de l'azote, et qui permet à chacune de ces étapes d'identifier à la fois les sorties des systèmes qui ne sont pas forcément des sorties du système global, parce qu'elles peuvent atterrir à côté, et aussi les boucles de rétroaction. Vous voyez qu'il y a des flèches qui reviennent. Alors globalement, on peut se dire que c'est la même chose qu'un cycle de l'azote classique, mais néanmoins, ça permet de mieux définir un certain nombre de compartiments qui vont nous intéresser, et surtout de cibler les actions que l'on a envie de faire. Et notamment, je vais faire deux petites focales, deux compartiments qui ont toujours été plus ou moins passés sous silence dans les approches que l'on a faites jusqu'à maintenant. C'est tout le domaine des émissions indirectes de protoxyde d'azote. Vous voyez, c'est le petit cadre au milieu, qui représente quand même presque 2/5 des émissions totales de protoxyde d'azote, liées eh bien, fortement, bien entendu, aussi aux émissions indirectes en amont. Et le deuxième compartiment, c'est le compartiment écosystème, que vous voyez en vert en bas à droite, qui peut recouvrir un certain nombre de fonctions très intéressantes, notamment pour tout ce qui est fonction tampon et limitation des transferts. Donc, pas de changement de processus, mais un changement de la façon d'appréhender leurs enchaînements pour essayer d'avancer un petit peu plus vite. Voilà. Donc c'est très bien, c'est exactement ce que j'ai dit. Ça, c'est de l'agronomie, c'est de la science environnementale. Là-dessus, vous rajoutez quand même une petite touche d'anthropisme administratif, à savoir que la gestion de l'azote, à quelles que soient les échelles, est encadrée depuis de nombreuses années par de nombreuses politiques publiques. Donc là, j'y reviens pas, mais quand on s'intéresse aux flux sortants, ayant un impact sur l'environnement, eh ben on retrouve quand même un paquet de choses, que ce soit au niveau nitrate, que ce soit au niveau émissions gazeuses, avec des réglementations spécifiques, des réglementations pas spécifiques type PAC, mais qui ont des sous-ensembles liés à des transferts d'azote. Donc ça rajoute une couche de complexité qu'il ne faut pas oublier dans la gestion de l'azote au niveau territorial, parce que dès qu'on veut jouer au niveau territorial, on doit actionner des leviers qui sont réalistes. Et dernière limite, c'est que très souvent, ce millefeuille d'actions ou de portefeuille d'actions, si je peux me permettre l'expression, était souvent mono-élément et mono-espèce, avec des spécificités par milieu, des spécificités par discipline ou secteur, quand on s'intéressait aux collègues qui y travaillaient, et au niveau des échelles, on allait de la micro-échelle au niveau de la parcelle jusqu'à des bassins versants, voire des régions entières, quand on parle de la directive nitrate. Donc tout ça concourt à la nécessité d'essayer d'avoir une vision plus intégrée des choses. Qui dit approche territoriale dit avoir des outils pour modéliser les flux à l'échelle territoriale en tenant compte, bien entendu, des interactions spatiales. Et là, jusqu'à maintenant, les approches qui avaient été développées, qui, d'un point de vue scientifique, peuvent être très poussées et très pertinentes, avaient quand même quelques limites, à savoir que les échelles, finalement, des approches territoriales développées jusqu'à maintenant ont été relativement locales, avec une compartimentation très forte par milieu, et bien souvent, dans la plupart des cas, aucune prise en compte de façon active, au sens levier d'action, des options de gestion de l'azote. Donc là aussi, nécessité d'aller plus loin dans les quelques approches territoriales scientifiquement pertinentes qui ont été élaborées jusqu'à maintenant, mais qui sont pas vraiment opérationnelles. Bon, après tous ces constats, donc tous les organismes qui étaient intéressés par la chose ont décidé de faire quelque chose et donc se sont lancés dans le projet SCAPAN. Bon, pour les détails, projet SCAPAN financé par le programme ANR Agrobiosphère qui va durer jusqu'en 2017 et dont le titre exact est l'évaluation de scénarios sur la cascade de l'azote dans les paysages agricoles et la modélisation territoriale. Bon, je vous passe les détails de la structure du projet dans sa globalité pour me concentrer sur les quatre tâches qui vont nous attendre et qui sont toutes en interaction. C'est les quatre bulles que vous voyez au centre du cercle, là. La première bulle, qui est, on va dire, la bulle gestion agricole de l'azote, qui a pour but d'élaborer des scénarios de l'azote cohérents et faisables au niveau de territoire pour limiter les flux tout en garantissant l'efficacité de l'azote pour la production. Les tâches T2 et T3 qui sont des tâches de modélisation liées à différentes échelles de territoire, donc que ce soit à l'échelle du paysage pour la T2 ou à l'échelle du territoire un petit peu plus élevée pour la T3. Et la T4 qui est une tâche en fait qui va alimenter toutes les autres, qui a pour but de recueillir quand même des données réelles sur des dispositifs expérimentaux, sur des observatoires territoriaux, pour avancer dans les solutions qu'on pourrait obtenir. Le but étant, bien entendu, de proposer des pistes d'atténuation des pertes d'azote dans l'environnement avec des leviers territoriaux soit faire ce qui est possible de faire sans modifier les systèmes forcément, soit d'avoir des outils pour orienter l'évolution des systèmes de façon cohérente et pertinente, avec la double focale, bien entendu, limitation des pertes et efficacité de l'activité agricole. Bon, évidemment, il y a toujours des objectifs partenariaux dans les projets. Et là, très clairement, vu la myriade des partenaires, c'est une occasion rêvée de développer un vrai partenariat recherche-développement sur cet aspect-là. Je viens de le dire. Je vais passer. Juste quelques détails techniques, du coup, pour vous expliquer un petit peu. Donc, la tâche T2 qui concerne la modélisation de intégrée au niveau du paysage va se baser sur l'histoire va commencer à partir de deux outils qui existent déjà et qui vont être améliorés, reparamétrés, travaillés. Là, je sors un petit peu de mon domaine de compétences, je vais peut-être dire des bêtises. Donc le premier, Nitroscape, et le deuxième, Quasimodène, qui ont l'intérêt de pouvoir modéliser au niveau de l'ensemble du paysage les flux d'azote. Donc que ce soit des transferts hydrologiques, mais aussi vont être étudiés la possibilité d'intégrer des transferts dans l'atmosphère, etc. Normalement, ça devrait zapper. Voilà. Deuxième focale, 2 minutes. Très bien. Finalement, je tiens mon temps, ça me rend mieux. Je m'impressionne. T4, deuxième focale, c'est sur l'acquisition de données expérimentales. Donc, il va se baser sur quatre bassins versants et sites expérimentaux déjà équipés. Donc, un en Bretagne, hein, à Kervidinezin. Un deuxième à Orgeval, qui est dans l'est parisien. Un troisième plutôt dans l'ouest parisien, le bassin Ouest Carré. Alors ne me demandez pas pourquoi Ouest Carré, celui-là je ne le connais pas trop. Et puis un dans le sud, à Oradea, qui sont tous équipés pour pouvoir acquérir les données de base pour paramétrer et pour objectiver les modélisations qui vont nous occuper. Voilà. Focale sur la T3 au niveau des modèles de transfert cette fois-ci. Alors, bon, là je vais passer assez vite, mais sachez que dans le projet, on a quand même un défi important d'un point de vue scientifique et technique, c'est la notion, bon, qu'est-ce que c'était l'homogénéité intra-mail, mais en gros, d'extrapolation au niveau territorial et d'agrégation des données, parce que le défi de gérer des flux à l'échelle territoriale, c'est pas uniquement un défi de les modéliser, mais c'est aussi de pouvoir les prendre en compte de façon opérationnelle. Bon, je passe. Bon, alors ça, c'est la diapo un petit peu institutionnelle pour vous montrer que tout ça, évidemment, c'est un partenariat très élaboré qui permet d'interpénétrer un certain nombre de compétences de tout le monde et qui est quand même assez exemplaire, au moins dans son montage et dans les premiers travaux qui ont été engagés. Et bien entendu, on va tout faire pour aller jusqu'au bout, pour arriver à un truc exceptionnel. Voilà. Et donc, en conclusion, bah, j'ai un peu tout dit. On va sans doute vous donner rendez-vous dans quelques années. Il y aura des rendez-vous réguliers de toute façon pour vous tenir au courant de cette chose-là. Le défi est quand même assez ambitieux parce que pour conclure et pour rappeler un petit peu l'introduction, même si la gestion à la parcelle ou à l'exploitation est toujours essentielle, est toujours améliorable et apporte toujours des solutions pertinentes, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, il faut grimper d'une échelle pour pouvoir aller un petit peu plus loin en conciliant tous les enjeux de la production agricole et de la limitation des transferts. Et donc, on va s'y atteler. Voilà. C'est fini.
Merci Jean-Pierre, très 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 bien et très clair, je pense, malgré la complexité des diapositives. Donc on a 5 minutes pour quelques questions, soit Jean-Pierre, soit entre nous, hein, soit Cascade de l'Azote, sur ce projet particulier, mais peut-être c'est là que ça sera plus difficile de répondre, mais n'hésitez pas à... Je ressouligne, hein, le projet le souligne bien, tous les enjeux de ce changement d'échelle et de la capacité à travailler à ces différentes échelles et ce lien très fort avec les pratiques culturales à l'échelle de la placette, voire hein, quand on parle d'émissions de N2O, on est bien sur les sites microbiens à des échelles voilà, très fines. Donc c'est un gros enjeu. Philippe, il y a...
Oui, j'avoue, j'ai juste une précision aussi, justement, parce qu'on a parlé avant de la directive nitrate, de l'obligation réglementaire de chaque exploitant de tenir un bilan à la parcelle, d'avoir un plan prévisionnel fumure, un cahier d'enregistrement de ses pratiques. Finalement, ces outils-là, comment ils vont se croiser avec le diagnostic parcellaire? Est-ce que, entre guillemets, ça pourra justifier enfin, je sais pas, d'un dépassement ou de... J'avoue, je ne vois pas l'outil en lui-même à qui il va servir. Est-ce qu'il va servir l'exploitant pour se prémunir, entre guillemets, d'un PPF ou est-ce qu'il va croiser des données avec des PPF locaux à la parcelle?
Alors, bon, au risque de dire des bêtises, le premier objectif du projet, c'est déjà de déterminer si on est capable d'avoir des stratégies de gestion de l'azote au niveau territorial qui soient efficaces, à la fois pour limiter les transferts et pour assurer une production agricole viable. Donc le premier défi, avant de se dire qu'est-ce que les résultats du projet vont remplacer dans la vie actuelle, c'est déjà de savoir si c'est possible. Donc la première chose. Ensuite, si c'est possible, à savoir si on arrive à déterminer, à concevoir des outils de gestion de l'azote au niveau territorial avec toute la complexité que revêt la définition du territoire qui soit efficace, inévitablement, tu as raison, il faudra se poser la question du remplacement, de la complémentation, voire du changement des outils existants pour passer à une nouvelle échelle. Et il est clair que si on s'aperçoit qu'une gestion territoriale au niveau d'un bassin versant, et pour limiter les transferts par exemple, est plus efficace à la fois d'un point de vue économique et environnemental, des propositions seront faites pour adapter, voire substituer cet aspect-là à des gestions individuelles. Ensuite, ce transfert-là, bien entendu, il ne se fait pas en 5 minutes. Il y a un certain nombre de règles administratives qui existent, et on ne s'attend pas à ce que dans 4 ans, on puisse dire « laissez tomber vos PPF à la parcelle », etc., etc. Par contre, si on arrive à des résultats opérationnels, des propositions seront faites pour proposer un changement d'échelle de la gestion des problèmes. Alors évidemment, dans les situations où on a des soucis, parce que l'intérêt d'une approche territoriale et d'une approche globale, c'est aussi identifier de façon un petit peu plus claire que maintenant, même si les outils existent déjà, les situations où il y a vraiment un problème, des situations où il n'y a pas de problème, et du coup aussi suggérer que des allègements de contraintes ou des outils imposés au niveau limite administrative, on va dire, peut être beaucoup plus pertinent dans des coins et pas du tout pertinent dans d'autres parce que le problème n'est pas là, preuve à l'appui que le flux d'azote, il ne va pas là, etc., etc. Donc il y a bien ces deux aspects-là. Par contre, en effet, c'est un petit peu précoce pour dire, c'est sûr que demain, les PPF au niveau parcelle, ça n'existera plus. Ma vision, c'est qu'ils existeront encore, à savoir que ce sera un outil de gestion parmi d'autres. Par contre, ils seront intégrés dans une chose plus large qui permettra soit de les rendre plus pertinents, soit de les alléger, soit de les supprimer s'ils ne sont pas pertinents dans certains territoires.
Oui, je voulais compléter peut-être sur le plan scientifique. On a vu les travaux et depuis toujours sur la volatilisation d'ammoniac, sur les émissions de N2O, sur les pertes de nitrate. Alors on est déjà dans la génération des études et des modèles. Là, on a un poster sur Systen, par exemple, où il y a des modèles plus scientifiques, enfin de mécanistes qui visent à quantifier l'ensemble des pertes ou l'ensemble des devenirs de l'azote à porcelaine. À la parcelle, mais ça reste une vraie question. Quand on va limiter la volatilisation d'ammoniac en ayant une pratique adaptée, l'azote qui n'est pas parti là, il peut partir sous forme de N2O. Et finalement, on a besoin d'intégration pour savoir est-ce qu'il faut mieux perdre l'azote sous forme ammoniacale ou sous forme de N2O du point de vue environnemental, du point de vue agronomique, ça ne sera pas la même chose. Donc on a vraiment cette notion de cascade de l'azote, en plus les impacts liés aux émissions de gaz ou aux pertes par les eaux ne vont pas forcément être, c'est ce qui est bien montré là, sur le même parcelle ou même situation. Donc cette approche intégrée et des différents devenirs de l'azote apportés à la parcelle, c'est vraiment très important finalement, à la fois d'un point de vue agronomique et d'un point de vue environnemental et économique. Donc aussi sur le plan scientifique, on a vraiment une marge de progrès et une étape à franchir et un projet comme celui-ci a l'ambition d'aider à ça.
Et si je peux me permettre juste un petit complément, spécifiquement pour la tâche où Arvalis intervient là, dans la tâche 1 sur l'élaboration de scénarios viables de gestion de l'azote au niveau territorial. Une des sous-tâches identifiées est les freins logistiques ou administratifs à de la gestion territoriale de l'azote. Bon, je prends un exemple tout bête. La mutualisation des plans d'épandage pour des exploitations qui sont en ICPE, ça nécessite un certain nombre de contraintes administratives qui fait que ça ne se fait pas en un clin d'œil, même si agronomiquement en parlant, on l'a prouvé. Donc on a bien intégré tous ces freins dans la réflexion pour faire en sorte que des préconisations agronomiques qui pourraient sortir du projet soient accompagnées de propositions d'évolution du système de gestion de l'azote pour que ça serve à quelque chose, en résumé.
Merci. Bon, je propose de remercier encore Jean-Pierre et nous allons passer à la communication.